bonjour à tous.
À la une de l'actualité, Gérard Depardieu jugé en octobre prochain pour agression sexuelle. L'acteur a passé la journée d'hier en garde à vue.
Un adolescent de 15 ans et sa mère mis en examen après l'agression mortelle de Matisse à Châteauroux. Des insultes racistes seraient à l'origine du drame.
La région Île-de-France arrête ses subventions à Sciences Po Paris alors que la mobilisation pro-palestinienne s'étend à d'autres universités.
Aucun écran avant 3 ans et pas de téléphone avant 11 ans. Ce sont les recommandations de la commission écran remises aujourd'hui au gouvernement.
Gérard Depardieu, accusé d'agression sexuelle, sera donc jugé en octobre prochain.
L'acteur de 75 ans a passé la journée d'hier en garde à vue, Jules Boschierini, pour des faits qui se seraient produits sur plusieurs tournages.
C'est une décoratrice de l'équipe du film Les Volets Verts, réalisé par Jean Becker, qui l'accuse de l'avoir agressé sexuellement. Les faits se seraient déroulés dans un hôtel particulier à Paris en septembre 2021. La victime a déposé plainte en février 2024 pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrage sexiste. Selon son témoignage recueilli par Mediapart, l'acteur aurait tenu un grand nombre de propos graveleux durant le tournage. Il l'aurait aussi attrapé avec brutalité, pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu'à ses seins. L'autre plainte est portée par une ancienne assistante de tournage. Elle accuse Gérard Depardieu d'agression sexuelle en 2014. Âgée de 24 ans au moment des faits, elle souhaite rester anonyme. Sa plainte a été déposée le 9 janvier et dénonce des propos obscènes prononcés au domicile de l'acteur à Paris. Au total, 5 plaintes pour agression sexuelle et viol ont été déposées contre Gérard Depardieu. L'une d'entre elles a été classée sans suite pour prescription.
Et Gérard Depardieu a été mis en examen déjà dans un autre dossier pour viol depuis 2020. L'acteur avait affirmé en 2023 n'avoir jamais abusé d'une femme.
Après l'agression mortelle de Matisse à Châteauroux, un mineur de 15 ans et sa mère ont donc été mis en examen.
L'adolescent de 15 ans suspecté d'avoir donné des coups de couteau mortels au jeune Matisse, 16 ans, a donc été mis en examen et écroué pour meurtre. Sa mère de 37 ans et elle mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable. Ce drame choque et suscite l'incompréhension, notamment celle du maire de Châteauroux. Gilles Averroux.
Je conçois pas et j'arrive pas à comprendre que des parents laissent ressortir un enfant après qu'il a été à deux reprises interpellé et mis en cause dans des affaires de violence. Je peux pas concevoir que ce jeune soit trouvé à nouveau dans la rue, à nouveau avec un couteau et récidive. Voilà, donc il y a vraiment tout un pan en la matière, donc la matière de l'éducation des adolescents et des moyens mis à disposition de la justice, des collectivités, des obligations rappelées aux parents. À remettre sur la table, je crois que c'est un travail qui est vraiment urgent. Et plus qu'utile pour notre société.
Et à l'origine du drame, la victime Matisse aurait proféré des insultes racistes contre l'adolescent. On le rappelle, d'origine afghane en situation régulière en France. Les deux jeunes se seraient ensuite battus. L'agresseur présumé en sang serait rentré chez lui pour aller chercher un couteau.
C'est un encadrant du Service National Universel. Il est soupçonné d'agression sexuelle sur mineurs.
Cet adolescent de 15 à 17 ans ont dénoncé des gestes inadaptés de la part de l'encadrant de 19 ans. Lors de leur séjour à Vesoul mi-avril, le suspect a été mis à pied. L'enquête devrait se poursuivre pour déterminer la nature exacte des faits.
La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, annonce suspendre les financements à Sciences Po.
Une suspension tant que la sérénité et la sécurité ne sont pas rétablies après des manifestations pro-palestiniennes au sein de l'université parisienne. La mobilisation qui s'est étendue également à la Sorbonne restait fermée tout l'après-midi avant que les manifestants soient évacués par la police. On écoute le délégué national du syndicat étudiant UNI, Yven Lecoz, qui condamne fermement les événements.
Quelque chose d'intolérable. Ils ont enfreint le règlement de Sciences Po et en occupant illégalement une université, on enfreint la loi. Et à côté, on a également le gouvernement qui, malheureusement, a encore une fois eu la main qui tremble. Quand on a eu notamment Sylvie Retailleau qui a félicité la direction de Sciences Po après qu'ils aient mis fin au blocage, mais surtout annoncé qu'il n'y aurait aucune sanction contre les militants pro-palestiniens. Et ça, c'est quelque chose d'absolument inacceptable. Et c'est ce laxisme qui, à terme, va juste mener au chaos. Au lieu de condamner des personnes qui sont ultra-minoritaires et qui, aujourd'hui, ont les pleins pouvoirs dans les universités, vont continuer à baisser la tête en attendant que ça se passe, en attendant qu'en septembre, ça redevienne un lieu un petit peu plus calme.
Et de rassemblements universitaires sont également prévus en région, par exemple du côté de Lyon ou bien de Sciences Po Bordeaux.
Emmanuel Macron annonce recevoir les syndicats agricoles après-demain.
Réunion après une nouvelle série d'annonces, notamment la présentation de la version définitive du plan Ecophyto sur les pesticides qui aura lieu début mai, de nouvelles aides financières et l'accélération de 100 projets de stockage d'eau et d'irrigation, alors que les députés entament aujourd'hui l'examen en commission du projet de loi d'orientation agricole qui arrivera ensuite le 14 mai. Dans l'hémicycle.
Avec une bonne nouvelle pour les agriculteurs du Roussillon, enfin de l'eau dans les Pyrénées-Orientales.
Il n'était pas tombé Une goutte depuis quasiment 2 ans. Sur le département, les Catalans ont vu l'arrivée de la pluie. Depuis dimanche, une bonne nouvelle, alors que le département des Pyrénées-Orientales vit une sécheresse historique. On écoute Bruno Villain, président des jeunes agriculteurs du département.
Ben, c'est-à-dire que ça permet à l'eau de s'infiltrer, parce que bon, étant dans un méditerranéen, on pourrait avoir un épisode méditerranéen un peu plus violent. Hein. Ça arrive régulièrement, et s'il pleuvait trop fort, malheureusement, l'eau ruisselle et s'en va. Alors que là, avec cette pluie régulière, ça permet de pénétrer et de bien humidifier. Quoi. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant pour nous, d'avoir cette pluie régulière qui tombe sans excès. Sûr que pour nous, c'est une réjouissance.
Bruno Villain, des jeunes agriculteurs des Pyrénées-Orientales, au micro de Christine Bouillot.
Rien avant 3 ans, le conseil de la commission écran qui rend aujourd'hui son rapport au gouvernement.
Les experts préconisent donc aucun écran avant 3 ans, d'interdire également les téléphones portables au moins de 11 ans et d'en limiter ensuite l'usage pour les adolescents. Ce rapport remis au gouvernement pointe un consensus très net sur les effets négatifs, directs et indirects des écrans, à la fois sur le sommeil, la sédentarité et la myopie.
Les deux roues perdent de la vitesse, et oui, les ventes de vélos neufs sont en forte baisse.
2,2 millions de vélos vendus en 2023, soit une baisse de 14% par rapport à l'année 2022. Une demande qui s'essouffle aussi bien sur les vélos mécaniques que sur les vélos électriques. Et Quentin Gérard, les vendeurs voient ce coup d'arrêt d'un mauvais œil.
Entouré de plusieurs dizaines de vélos dans son local, Sabri, gérant d'un magasin, a subi la diminution des ventes de bicyclettes.
On a remarqué une légère baisse en 2023, premier trimestre de 2023, qui s'est accentuée en fin d'année 2023. Une diminution d'environ entre 10 à 15% des ventes et un petit peu plus pour le premier trimestre 2024. C'est une perte entre 30 et 40 000 euros de chiffre d'affaires.
Pour limiter son manque à gagner, il s'est aussi mis sur le marché de l'occasion qui a lui doublé depuis 2019.
On ne peut pas dire qu'on trouve les mêmes chiffres qu'après l'après-Covid ou même avant Covid, mais avec l'augmentation des ventes de vélos d'occasion, on arrive à compenser un peu la perte des vélos neufs.
Et cette baisse des ventes de vélos neufs est un problème conjoncturel pour Virgile Caillé, délégué général de l'Union Sport et Cycle.
Il y a eu une surproduction de vélos suite à la crise sanitaire et dans le même temps une baisse de la demande à partir du deuxième semestre 2022 et ça s'est confirmé en 2023. Plus de vélos sur le marché, moins de demande sur stock et puis il faut aussi reconnaître que le contexte est particulièrement anxiogène qui ne donne pas envie de consommer, d'investir. Donc les foyers ont fait des arbitrages. Effectivement, il faut reconnaître que cette année, eh bien, on a un coup d'arrêt sur le marché du vélo.
Les professionnels du secteur restent tout de même optimistes et croient à une reprise au printemps 2025.
Un reportage de Quentin Gérard.
Transport toujours en Ile-de-France, l'autoroute A13 rouvrira finalement que partiellement le 11 mai prochain.
Réouverture de l'autoroute uniquement en direction de Paris, l'un des axes principaux de l'ouest francilien, on le rappelle, qui est totalement fermé depuis le 18 avril dans le département des Hauts-de-Seine, du côté de Saint-Cloud, en raison d'un glissement de terrain.
Antoine Dupont, Anthony Gelon, Paul Graou changent de maillot et portent les couleurs du RC Auch.
Alors je vous rassure, pas question de départ pour les trois joueurs du stade toulousain. Non, ils ont revêtu les couleurs en fait de leur ancien club, le temps d'un film qui permet de mettre en valeur la formation des jeunes rugbyman Made in Auch.
Oui, donc ils restent bien à Toulouse. Hein.
Pour l'instant, en tout cas, jusqu'à la fin de la saison, tout va bien.
Bon, ok, ça va.
Non, pour l'instant, non, ça va.
Pour l'instant, ça va. Allez, en football aussi, début des demi-finales aller de la Ligue des Champions, c'est ce soir.
Avec le premier choc, le Bayern Munich qui reçoit le Real Madrid ce soir à 21h. Et puis, évidemment, demain, Dortmund qui reçoit le PSG.
Pour la deuxième demi-finale, on croise les doigts déjà pour les supporters parisiens. 5h09 qui sont déjà très inquiets. 5h09 sur Sud Radio. À tout à l'heure,
Laurie. À
6h.
Le petit matin Sud Radio, 5h-6h30, Maxime Trouleau.
Oui, la tension monte, 5h09 sur Sud Radio. Merci de nous écouter, en tout cas dans ce petit matin, en ce mardi 30 avril 2024. On retrouvera Laurie bien évidemment tout à l'heure à 6h pour un nouveau point sur l'actualité. Elle est riche cette actualité, notamment donc ce qui s'est passé du côté de Châteauroux avec le meurtre de cet adolescent de 15 ans. On parle également aussi, tiens, sur notre compte Twitter, l'une de nos questions du jour sur ce qui se passe à Sciences Po, les conséquences de ce qui se passe à Sciences Po, et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui annonce suspendre les financements de la région après ces manifestations. Qu'en pensez-vous? On vous pose la question. Vous êtes assez partagé. Vous nous dites à 44% pour le moment que c'est assez compréhensible. En tout cas, vous nous dites que c'est une bonne décision, et à 33% que c'est plutôt scandaleux. N'hésitez pas à réagir, à faire voter, et à faire bouger ces chiffres. On en parlera bien évidemment. évidemment tout au long de ce mardi matin. En tout cas, 5h10, tout de suite on va retrouver Félix Mathieu, le meilleur des trois mots dans l'actu, qui était en direct aux alentours de 17h30 dans Les Vraies Voix.
Dans l'actu qui sont Félix Trèves, plainte et chien.
Après Sciences Po, la police intervient à la Sorbonne pour faire évacuer les manifestants pro-palestiniens. Pendant ce temps, la diplomatie américaine appelle le Hamas à accepter une trêve avec Israël. Gérard Depardieu placé en garde à vue à Paris suite à des plaintes de deux femmes pour agression sexuelle, des faits qui auraient eu lieu en 2021 et 2024. Et puis le président argentin a-t-il 4 ou 5 chiens? C'est la question qui fâche au plus haut sommet de l'État depuis qu'une biographie de Javier Milei affirme qu'il fait de la télépathie avec un ancien compagnon à quatre pattes mort en 2017.
Les vraies voix Sud Radio.
Des manifestants mobilisés pour Gaza dans la Sorbonne. Après Sciences Po, l'emblématique université parisienne a été investie à son tour, provoquant une intervention de la police cet après-midi. Pendant ce temps, au Forum économique de Riyad en Arabie Saoudite, le chef de la diplomatie des États-Unis, Anthony Blinken, appelle le Hamas à accepter une trêve avec Israël, une trêve associée à une libération d'otages.
Hamas has before it a proposal that is extraordinarily.
Le Hamas a devant lui une proposition extraordinairement généreuse de la part d'Israël. En ce moment, la seule chose qui se tient entre la population de Gaza et un cessez-le-feu, c'est le Hamas. Ils doivent prendre une décision et ils doivent le faire rapidement. Donc, nous attendons cela et j'espère qu'ils prendront la bonne décision et que nous pourrons avoir un changement fondamental dans la dynamique.
Les États-Unis qui redisent au passage leur opposition à l'idée d'une offensive israélienne sur la ville surpeuplée de Rafah dans la bande de Gaza.
Nous l'avons dit clairement et depuis un certain temps, en l'absence d'un plan garantissant la sécurité des civils, nous ne pouvons pas soutenir une opération militaire majeure à Rafah. Nous n'avons pas encore vu de plan qui nous permettrait de croire que les civils peuvent être protégés efficacement.
En tout cas, une réunion est prévue entre l'Égypte, le Qatar, les États-Unis et des représentants du Hamas au sujet de cette proposition de trêve négociée entre Israël et l'Égypte.
Réaction peut-être.
Les États-Unis sont écartelés, ils soutiennent Israël et en même temps ils veulent sauvegarder certains des droits humains. Je ne leur jetterai pas la pierre, c'est pas facile.
Michael.
Moi, je suis assez d'accord avec la position de la diplomatie américaine. Je suis très défavorable à ce que l'armée israélienne re-rentre à Rafah parce qu'il me semble que là, ils pourront plus avancer sur le sujet de l'élimination du Hamas sans causer des dégâts définitifs et massifs sur la population palestinienne. Ça commence à lui être de plus en plus dommageable sur la scène internationale et c'est aussi dommageable aux Juifs du monde. Donc j'espère qu'une trêve sera trouvée, évidemment.
On passe au rolling IFOP fiducial des élections européennes. La liste PS se rapproche encore un peu davantage de Renaissance.
Oui, 14,5% désormais pour la liste socialiste et place publique de Raphaël Glucksmann qui gagne encore un demi-point. Au contraire, la liste Renaissance de Valérie Ayer en perd un, désormais 16%. Il n'y a plus donc qu'un petit point et demi entre les macronistes et les socialistes qui l'étalonnent. Avant tout ça, évidemment, le RN reste toujours largement premier à 31,5%. Toutes les estimations du rolling sont à retrouver chaque jour à 17h, un pas sur sudradio.fr.
Deuxième mot, plainte. Gérard Depardieu a été placé en garde à vue aujourd'hui.
L'acteur entendu dans les locaux de la police judiciaire parisienne sur des accusations d'agression sexuelle portées par deux femmes. La première, une décoratrice, travaillait dans l'équipe du film Les Volets Verts en 2021. La seconde l'accuse de faits similaires en 2014. La découverte des obscénités proférées lors d'un voyage en Corée du Nord avait placé Gérard Depardieu au centre de la controverse il y a quelques mois.
J'ai une poutre dans le caleçon.
L'acteur qui, avant ces deux plaintes, était déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle dans un autre dossier.
Jean ?
Écoutez, pour l'instant, c'est toujours pareil. Gérard Depardieu, il est présumé innocent. Il est en garde à vue là au moment où nous parlons. Il est mis en examen également pour des affaires extrêmement graves. Ça pose vraiment, toutes ces histoires, ça pose la question du temps judiciaire qui est un temps long. J'ai une pensée pour Harry Habitant qui a été accusé des accusations extrêmement graves et qui ont eu un impact très très fâcheux sur sa carrière. Il y a eu des tournages qui ont été annulés, qui étaient prévus de longue date pour lui.
Depuis, dont le non-lieu est...
Il y a eu un non-lieu total. Le parquet a dit non, il n'y a pas lieu de continuer. Et j'ai une pensée pour ce monsieur, parce qu'il a quand même, il paye encore le prix fort de ses accusations. Donc c'est très important que la parole des victimes se libère. Et en même temps, c'est médiatiquement, me semble-t-il, compliqué, parce que là, ça fait les choux gras de l'actualité. J'imagine, ça, il ne doit pas avoir la vie facile en ce moment. Et quand est-ce qu'on aura le fameux mot d'histoire? Ce sera dans longtemps, et c'est un vrai problème.
Allez, le troisième mot, chien, c'est le sujet qui fâche la présidence argentine.
Oui, en cause la relation fusionnelle.
C'est du lourd.
C'est du lourd. La relation fusionnelle du très à droite Javier Milei avec ses compagnons à quatre pattes. Ses enfants à quatre pattes, hein, même comme il les appelle. Par deux fois cette semaine, le porte-parole de la présidence argentine s'est emporté quand des journalistes lui ont demandé lors du point presse quotidien si le président avait quatre ou cinq chiens, ou plus précisément, est-ce qu'il en a quatre qui comptent pour cinq. En fait, derrière cette question qui paraît loufoque, il y a une biographie de Javier Milei qui affirme qu'il communique par télépathie avec son chien Conan, mort en 2017. Ses actuels chiens d'ailleurs seraient les clones de ce dénommé Conan, dont il a eu du mal à faire le deuil, mais forcément ça pose un peu une question sur son équilibre mental.
Mais aucun rapport avec Tom Conan, faut-il le rappeler, qui est une des vraies voix quand
voilà,
même.
Hein. C'est important de le dire. On le salue.
Quelle histoire incroyable contée hier par notre journaliste Sud Radio Félix Mathieu, que vous retrouvez tous les jours aux alentours de 17h30 dans les vraies voix entre 17h et 20h. 5h16 sur Sud Radio dans un instant. Le rappel des titres, et puis on retrouvera Valérie Expert et Gilles Gansman pour Sud Radio Média. A tout de suite.
Sud Radio Bordeaux 106 et en DAB+.
Sud Radio.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Moi je regarde les matchs, mais je coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire.
Sud Radio, la radio du rugby. Le petit matin Sud Radio, 5h-6h30, Maxime Trouleau.
Et à 5h17 sur Sud Radio, le rappel des titres. Gérard Depardieu sera jugé en octobre prochain pour deux agressions sexuelles sur un tournage en 2021. L'acteur, déjà mis en examen pour viol dans une autre affaire, a passé la journée d'hier en garde à vue. L'auteur présumé de l'agression mortelle de Matisse, 16 ans, à Châteauroux, a été mis en examen et écroué pour meurtre. Sa mère, âgée de 37 ans, a elle aussi été mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable. Des insultes racistes seraient à l'origine du drame. La région Île-de-France suspend ses financements à Sciences Po Paris après des manifestations pro-palestiniennes. Mouvement qui a gagné la Sorbonne. Hier, des militants ont été évacués par les forces de l'ordre. Le projet de loi d'orientation agricole arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale. Le président Emmanuel Macron annonce recevoir les syndicats agricoles après-demain, le 2 mai. L'autoroute A13 réouvrira le 11 mai prochain, uniquement en direction de Paris. L'accès est totalement fermé depuis le 18 avril dans les Hauts-de-Seine à cause de fissures sur la chaussée. Et puis en football, début des demi-finales allées de la Ligue des Champions. Ce soir, le Bayern Munich reçoit le Real Madrid à 21h. 5h18 sur Sud Radio, donc tout de suite le meilleur de Sud Radio Média avec Valérie Expert et Gilles Gansman.
Sud Radio Média, l'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Noam Huclin, directeur délégué de 20 Minutes TV, la télé du journal 20 Minutes. Encore une fois, c'est un journal district qui est gratuit, un quotidien gratuit qui existe depuis combien de temps maintenant? Ça fait.
Alors, très honnêtement, j'ai pas la date exacte, mais ça fait plusieurs dizaines d'années.
Voilà.
C'est plus de 20 ans.
Oui, oui.
Ça a plus de 20 ans et plus de 20 millions d'abonnés.
Et 20 Minutes TV fête ses un an.
Exactement.
Avec une volonté d'être une télévision francilienne.
Oui.
Qui traite, racontez-nous un petit peu quel a été le projet et la démarche qui a été celle de vos actionnaires.
Ouais. Alors le projet est très simple, c'est qu'au niveau du groupe, on essaie d'avoir une télé ou en tout cas une télé ou une web TV partout où on a des journaux.
Ah oui, il faut savoir, on peut le citer, hein, Valérie, le propriétaire, c'est Rossel France, qui possède le Télégramme, Sud-Ouest, Ebra, La Montagne et La Nouvelle République.
Exactement.
Et donc, dans toutes ces régions-là, vous avez aussi des chaînes de télé régionales.
Il y a des chaînes de télé ou des web TV qui se mettent en place, effectivement.
C'est une volonté du groupe et d'aller sur le marché de la télé.
Ouais, ouais. Bah, aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la vidéo. Enfin, vous-même, vous le voyez bien au quotidien, on ne peut pas se passer de la vidéo.
Bien sûr.
Et 20 minutes avait déjà un pôle vidéo très fort, hein, puisqu'ils ont 16 millions de visiteurs uniques par mois sur leur site internet, c'est 2 millions de vues de vidéos par jour, donc il y a un pôle vidéo qui est très fort, mais il n'y avait pas de chaîne de télévision en Ile-de-France. Et donc, il y a eu l'opportunité de racheter IDF1, il y a deux ans maintenant. En même temps, il y a la convention d'IDF1 avec l'ARCOM qui arrivait à son terme.
Ouais.
Voilà. Donc on a candidaté pour récupérer le canal d'IDF1, voilà, le canal 32 sur l'Île-de-France. Nous n'étions pas les seuls, hein. Il y avait un candidat devant nous, et puis l'ARCOM a retenu notre projet. Et voilà comment on a lancé finalement 20 minutes TV.
Avec un budget évidemment beaucoup moindre que celui d'autres chaînes, exactement, de chaînes d'infos. Ouais. Donc comment on fait quand on doit se débrouiller avec un petit budget de l'info, ouais, parce que l'info ça coûte cher.
Exactement, on a un petit budget, enfin, on n'a pas de problème avec l'argent. Nous, notre budget est à peu près de 2 millions d'euros. Il y a eu un investissement du groupe, évidemment. Au quotidien, il faut être malin. Malin tous les jours, il faut être malin avec l'équipe, il faut être malin dans la grille des programmes, dans la façon de tourner les choses également, dans la convergence avec 20 minutes.
Vous tournez avec des portables, par exemple ?
On tourne avec des portables. Des portables et des boîtiers, essentiellement. Ça nous permet d'être plus réactifs, de monter les choses beaucoup plus facilement, de distribuer les images très rapidement. Aussi d'enchaîner sur le terrain quand on est avec son portable, c'est beaucoup plus facile que de devoir dérocher avec la caméra, etc. Et puis dans la convergence avec 20 minutes également, puisqu'il y a la rédaction 20 minutes, hein, avec laquelle on travaille tous les jours, là c'est pareil, c'est des synergies qui sont mises en place pour aller vite, pour traiter de manière correcte, cohérente et surtout en lien avec notre cible, l'actu. Et c'est comme ça qu'on fait au quotidien, on trouve des solutions pour quand même avoir quasiment 2 heures fraîches d'antenne par jour, dont 1 heure de direct. Et ça, c'est plutôt pas mal.
Et l'idée, c'est d'être évidemment sur tous les écrans, avec des formats adaptés.
Exactement. Tout ce qu'on fait.
Différents supports.
Exactement. On est sur les tablettes, on est sur les téléphones, on est sur la télé. On va même aller un petit peu plus loin prochainement. Je ne vais pas vous en dire plus. J'aimerais parler, mais non, je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Mais
dans quel sens,
YouTube?
Alors on est sur YouTube également, et vous pourrez peut-être bientôt nous voir encore autrement. Mais voyez, bon, j'ai le sens du teasing, hein,
voilà,
je fais de la télé.
Alors pourquoi il faut regarder 20 minutes TV, et racontez-nous où on peut voir dans les grandes villes de France, ou c'est uniquement
C'est sur toutes les boxes. Ouais.
Exactement. Donc sur l'île de France, on est sur le canal 32 de la TNT.
Vous dites c'est une télévision de proximité.
Exactement.
Donc, proximité, ça veut dire
ça traite de l'info d'Île-de-France.
Exactement. Voilà.
Avec une porte ouverte également sur ce qui se passe en dehors de l'Île-de-France. Ouais. Effectivement,
il est regardable.
Il est regardé partout. Exactement. Et puis il y a les infos nationales qui concernent les Franciliens. Et puis il y a des choses qui se passent en Île-de-France qui peuvent concerner aussi le reste de la France. Donc
que ce soit les pièces de théâtre, la culture,
par exemple. Et puis en Île-de-France, il y a une grande partie des habitants qui provient d'ailleurs en France. Des gens qui viennent travailler en Île-de-France. Et donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une porte ouverte sur ce qui se passe à l'extérieur. Et 20 minutes est un peu partout en France. Hein.
Ouais.
Donc on a cette matière-là. Avec le groupe, on a la chance aussi d'avoir des vidéos d'un peu partout. Donc on peut se servir de toute cette matière. Alors évidemment, la majorité de nos programmes, c'est de l'Île-de-France.
C'est de l'Île-de-France,
voilà, ça c'est important. On est une télé de proximité. L'idée, c'est qu'on apporte une information utile tous les jours, parce qu'on veut dire même chaque minute aux habitants d'Île-de-France. Mais évidemment, on va traiter de sujets nationaux. Tout à l'heure, dans le journal, il y avait Sciences Po. Évidemment que Sciences Po, ça concerne également
les Franciliens,
on en parle, et de manière générale, les Français.
Alors, vous avez lancé un magazine olympique, parce que pour le coup, les Jeux Olympiques, ça va être Paris et l'Île-de-France.
Et alors, on est juste à côté,
on est au Stade de France.
Oui, vous enregistrez, vos bureaux sont à Saint-Denis, donc juste à côté.
Qu'est-ce que vous allez faire durant les Jeux Olympiques? Et là, vous avez lancé un magazine, c'est ça?
Oui, on a commencé une émission, ce sera la troisième ce mercredi. À J-100, on a lancé Vos JO de rêve. Donc, c'est une émission 100% JO, où chaque semaine, on reçoit un athlète qui vient d'être qualifié pour les JO. Et pendant une petite demi-heure, on discute avec lui. Il y a des jeux, enfin c'est une émission assez sympa, un peu au code de réseaux sociaux. Tout à l'heure, vous parliez justement.
Beaucoup plus clippé,
exactement. On essaie de s'écarter un peu des émissions télé classiques pour faire un peu plus de réseau. Donc ça, c'est les JO. Et ça, c'est une émission hebdo qu'on va renforcer pendant les JO, évidemment, parce que ça deviendra une émission quotidienne pendant les JO.
Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Parce que, en fait, les chaînes régionales ont été créées au moment de la TNT. Il n'y avait pas toutes les box et tout ce qui existait. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt à avoir maintenant une chaîne en TNT et avoir une chaîne régionale? Est-ce que c'est un vrai intérêt?
Et je complète avec la question d'un auditeur. C'est quoi le modèle pour faire de l'argent avec du gratuit?
Très bonne question. La télé a un intérêt, évidemment, parce que c'est un plus pour un média de pouvoir offrir finalement toute une panoplie de supports possibles pour diffuser des messages. Je rappelle que nous, du coup, on a le print, le web,
moi,
digital,
de
la télé.
Il y a France 3.
Il y a France 3, mais on fait pas la même chose. Vous pourriez me dire, il y a BFM, Île-de-France, Paris-Île-de-France aussi. Nous, on n'est pas une chaîne d'info. Nous, on est vraiment une télé de proximité qui apporte une information tout au long de la journée, mais sur ce qui se passe au plus proche de mon domicile.
Le Petit Matin Sud Radio, 5h-6h30, Maxime Trouleau.
5h25 sur Sud Radio, Valérie Expert et Gilles Gansman, que vous retrouvez tout à l'heure à partir de 10h avec leur invité. Tiens, on va parler Molière, ce sera Jean-Marc Dumontet, le propriétaire de théâtre, puisque lundi prochain, c'est la 35e cérémonie des Molières qui sera diffusée sur France 2 à partir de 21h. 5h25 donc, bonne fête au Robert ce matin. Et bon anniversaire à ceux, on est un 30 avril, c'est le cas par exemple du réalisateur Jacques Audiard, 72 ans ce matin, de l'acteur Charles Berling, 66 ans, ou de l'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, 69 ans aujourd'hui, celui qui avait pris de court tout le monde le 28 août 2018, souvenez-vous, lorsqu'il annonça sa démission au micro de France Inter.
Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
Aujourd'hui.
Vous êtes sérieux là ?
Oui, je suis sérieux.
Je tiens à préciser que vous ne l'aviez absolument pas dit avant de rentrer dans ce studio. Bien au contraire.
C'est la décision la plus douloureuse, que personne n'en tire profit. Parce que la responsabilité, elle est collégiale, elle est collective, elle est sociétale.
Nicolas Hulot, qui avait été l'une des surprises lors de son entrée au gouvernement le 17 mai 2017, au tout début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Nicolas Hulot qui a également été touché par des affaires d'agression sexuelle et de viol, mais n'a jamais été condamné, notamment pour des questions de prescription. Les anniversaires du jour, en ce 30 avril, la naissance d'une célèbre série télévisée, diffusée pour la première fois aux États-Unis le 30 avril 1975, il y a 49 ans, c'est Starsky et Hutch. Saison, 92 épisodes pour cette série qui met en avant l'aventure de policiers américains David Dave Starsky et Kenneth Hutchinson à bord de leur célèbre Ford Grand Torino rouge. La série est multidiffusée en France dès 1978. Et puis tiens, restons dans la fiction ce matin, mais là carrément dans l'imaginaire le plus complet, avec l'anniversaire ce mardi d'un célèbre lapin. Non, ce n'est pas Bambi, mais celui qui voit le jour le 30 avril 1938, c'est Bugs Bunny.
Bugs Bunny. Est-ce qu'il n'aurait pas de très longues oreilles? Comme ceci. Est-ce qu'il dit quoi de neuf, docteur? Comme ceci. Quoi de neuf, docteur? Oui! Non. Jamais entendu parler.
Voilà, Bugs Bunny qui n'est alors qu'un prototype. À l'époque, il ne s'appelle pas encore Bugs Bunny d'ailleurs. Il apparaît dans le cartoon Porky et le Lapin Malin. Voilà pour l'anecdote. Notre célèbre lapin qui ne prendra vraiment forme comme on le connaît aujourd'hui que le 27 juillet 1940. Ça l'est 5h28. Dans un instant, on va retrouver Rémi André. On va retrouver également Manon Bacourt pour le Flash. Et puis, ça sera à l'heure de Clément Arion pour la revue de presse du jour. À tout de suite.
Sud Radio Nîmes.
104.7.
Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Permettez-moi de vous féliciter pour vos émissions. Je me délecte, je vous redécouvre et j'apprécie beaucoup.
Sud Radio, parlons vrai. La météo Sud Radio.
La météo de ce mardi matin avec Rémi André et le soleil qui se fait attendre. Bonjour Rémi.
Bonjour à toutes. Eh bien, il y a peu de changements côté ciel aujourd'hui, avec toujours cette perturbation qui traîne depuis le Languedoc et le Roussillon jusque vers le Limousin, l'Auvergne. Mais elle remonte déjà en direction du bassin parisien avec quelques gouttes. Et tout cela va ensuite s'amplifier dans l'après-midi en remontant en direction des Hauts-de-France et des Ardennes. Là, cela pourrait, dans l'après-midi, donner quelques averses orageuses. L'Alsace se tient à l'écart du mauvais temps aujourd'hui. D'ailleurs, du côté de Strasbourg, on pourrait atteindre les 25 à 26 degrés cet après-midi. La Provence, la côte d'Azur, d'Azur et la Corse également à l'écart du mauvais temps, mais avec un ciel nuageux et des températures qui vont de 18 degrés à Nice ce matin jusqu'à 20 à 22 degrés cet après-midi. Sur la partie ouest du pays, voilà une perturbation qui, elle, approche par la Bretagne, mais elle va rester sagement sur la Bretagne et Pays de la Loire, quelques gouttes sur la Normandie, elle n'arrivera que dans la soirée par l'Aquitaine. Sur cette moitié ouest, les températures ce matin vont de 11 degrés à Brest jusqu'à 12 à 13 degrés à Bordeaux, et bien dans l'après-midi, il y fera entre 16 et 18 degrés.
Merci beaucoup Rémi, on vous retrouve tout à l'heure à 6h. Merci en tout cas d'être avec nous en direct dans le petit matin sur Sud Radio, les 5h30.
Parlons vrai.
Et tout de suite les infos avec Manon Bacour. Bonjour Manon.
Bonjour à tous. L'appel au calme du préfet de l'Indre après la mort de Mathis, cet adolescent poignardé à mort samedi dernier à Châteauroux. Le mineur de 15 ans, suspecté d'être à l'origine des coups, a été mis en examen pour meurtre et incarcéré cette nuit. Sa mère, âgée de 37 ans, a elle aussi été mise en examen pour violence volontaire. Elle a été laissée libre sous contrôle judiciaire. Les forces de l'ordre resteront déployées sur les lieux du drame afin d'éviter tout débordement selon les services de l'État. Il a quitté le commissariat parisien dans lequel il avait été placé en garde à vue, Gérard Depardieu, est reparti hier soir avec une convocation de justice. Il comparaîtra devant le tribunal correctionnel en octobre pour des agressions sexuelles susceptibles d'avoir été commises en septembre 2021 au préjudice de deux victimes sur le tournage d'un film. Gérard Depardieu nie catégoriquement toutes les accusations portées à son encontre. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron va recevoir ce jeudi les syndicats agricoles et les représentants des filières afin d'évoquer les perspectives de l'agriculture française et européenne. Cette réunion de travail fait suite à une série de mesures annoncées par le gouvernement samedi dernier, parmi lesquelles figure la présentation de la version définitive du plan Ecophyto de réduction des pesticides et de nouvelles aides à la trésorerie des exploitations. Quels sont les impacts de l'exposition des jeunes Français aux écrans ? Emmanuel Macron va recevoir aujourd'hui les conclusions d'une commission d'experts sur ce sujet, sur la base des recommandations de pédopsychiatres, de neurologues, des spécialistes de l'éducation et de juristes. Il y aura peut-être des interdictions, il y aura peut-être des restrictions et peut-être aussi des restrictions sur les contenus, avait déjà annoncé le chef de l'État en janvier dernier. Et puis le retour de Wemby à Paris un an et demi après son départ de Boulogne-Levallois pour les Spurs de San Antonio. Victor Wembanyama sera la star du prochain NBA Paris Game. L'événement a été officialisé hier. L'affiche opposera les San Antonio Spurs aux Indiana Pacers dans une double confrontation de matchs en l'espace de 48 heures les 23 et 25 janvier prochains. Bon début de matinée à tous.
À vous aussi, merci beaucoup Manon.
Le Petit Matin Sud Radio, 5h-6h30, Maxime Trouleau.
À 5h32, on retrouve Clément Arion pour la revue de presse du jour. Bonjour Clément.
Bonjour Maxime.
Et ce matin, on parle des jeunes et des écrans à la une des journaux locaux ce matin.
Eh oui, enfants et écrans, rapport alarmant. C'est à la une de La Voix du Nord. Écran noir pour les tout-petits, à la une de La Provence. La commission écran demandée par Emmanuel Macron a rendu ses conclusions. Elle préconise d'interdire l'usage des écrans aux enfants de moins de 3 ans, interdire les téléphones portables aux moins de 11 ans et limiter strictement l'accès pour les adolescents. Les experts qui pointent les réseaux sociaux, facteurs de risque de dépression ou d'anxiété, et selon eux, le niveau d'exposition des enfants à des contenus pornographiques et violents est aussi très alarmant.
À la une du Figaro ce matin, le drame de Châteauroux, la mort de Mathis, 15 ans, qui relance le débat sur la justice des mineurs.
Et oui, dans cette affaire, un jeune adolescent du même âge, de nationalité afghane, va donc être présenté à un juge. Les contours de cette rixe qui commence à se dessiner, Maxime, une altercation, puis une bagarre aurait d'abord éclaté entre les deux adolescents. La mère du mis en cause, elle, aurait giflé la victime après les coups de couteau portés donc par son fils, selon donc plusieurs témoins, et d'autres ont rapporté qu'elle aurait tenté de le réanimer. C'est encore un petit peu flou.
L'histoire, ouais.
Le Figaro qui questionne donc sur une justice des mineurs qui serait dépassée, des procédures trop complexes et une primauté de l'éducatif sur la sanction dénoncée par certains procureurs.
Eh ben justement, on parle évidemment de cette violence du côté de Châteauroux. Les mineurs doivent-ils être jugés comme les majeurs ? C'est la question que l'on vous pose sur notre compte Twitter. Et ben pour le moment, vous nous dites assez largement oui à 81%, 17% de non. Et on a ce commentaire
de cet auditeur, notamment, qui nous dit il faut aussi impliquer les parents responsables de l'éducation de leurs enfants. Dans Le Parisien ce matin également, Clément, Gérard Depardieu, tiens, qui va être jugé pour agression sexuelle.
Il était convoqué hier par la police toute la journée en garde à vue. Il sera donc jugé en octobre prochain. C'est une décoratrice de l'équipe du film Les Volets Verts, réalisé par Jean Becker, qui l'accuse donc de l'avoir agressé sexuellement. Les faits se seraient déroulés dans un hôtel particulier à Paris en septembre 2021. Selon son témoignage, il l'aurait attrapé avec brutalité, pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu'à ses seins. La deuxième plainte est portée par une ancienne assistante de tournage. Elle accuse Gérard Depardieu également d'agression sexuelle. En 2014, elle était âgée de 24 ans au moment des faits.
Toujours dans Le Parisien aujourd'hui en France, Clément, on apprend que l'université de la Sorbonne a commencé par être occupée hier, puis finalement rapidement évacuée.
Une trentaine d'étudiants avaient installé des tentes dans la cour, à l'image de ce qui s'était fait à Sciences Po et dans des universités américaines, pour soutenir la cause palestinienne. Évacuation rapide par les forces de l'ordre, comme vous l'avez dit, Maxime. Le gouvernement qui veut éviter absolument une contagion des universités sur le modèle américain. Et on apprend aussi dans le même article dans Le Parisien que Valérie Pécresse a suspendu ses financements à Sciences Po. Elle souhaite qu'un climat de sécurité y soit rétabli. Je cite, une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite ne peuvent pas dicter leur loi à l'ensemble de la communauté éducative.
Eh bien justement, cette décision de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qu'en pensez-vous? Là aussi, on vous pose la question sur notre compte Twitter. Vous êtes toujours aussi partagé. Vous nous dites tout de même à 47% que c'est une bonne décision, à 34% que c'est scandaleux, à 11% que c'est logique, à 8% que c'est exagéré. Un débat Attal-Bardella, ça devrait finalement peut-être en tout cas avoir lieu. En tout cas, c'est le souhait d'Emmanuel Macron. Révélation ce matin du Canard Enchaîné.
Et oui, Macron veut un débat de jeunes. C'est le titre du Canard Enchaîné. Confidence du président à quelques élus de la majorité. Je cite, je souhaite que le Premier ministre débatte avec Jordan Bardella pour le forcer à sortir de toutes ses ambiguïtés. Le président de la République qui soupçonne Gabriel Attal de ne pas vouloir mener campagne. Eh bien, il va devoir monter au front face à la tête de liste du Rassemblement National. Toujours selon le Canard Enchaîné, en Macronie, il y a le feu au lac.
Alors que selon notre sondage, le RN est toujours largement devant, évidemment, sur ces élections européennes dont le premier tour aura lieu le 9 juin prochain. Évidemment, un sondage à retrouver, Clément, sur sudradio.fr. Allez, on termine avec le sport. La une de l'équipe, petit clin d'œil à Charles Aznavour, tout en haut de l'affiche.
Et oui, avec cette photo de Luis Enrique, le coach du Paris Saint-Germain, la nouvelle star, selon l'équipe, depuis le départ de Messi et Neymar, symbole du renouveau et de la belle saison du PSG. Donc Luis Enrique, Dortmund-PSG, c'est demain 21h, demi-finale de la Ligue des Champions, match aller. Et puis on a la première demi-finale ce soir, oui. Bayern Munich-Real Madrid, deux monuments et un favori pour le quotidien sportif, évidemment le Real, le club aux 14 Ligues des Champions. On suivra ça, coup d'envoi 21h.
Et on en reparle demain, évidemment. Avant de finir cette revue de presse, un petit mot de tennis. Clément Nadal, Raphaël de son prénom, qui enchaîne à quelques semaines de Roland-Garros.
Et oui, le Mallorquin de retour sur les terrains à Madrid. Il s'est qualifié pour les huitièmes de finale hier. Victoire en 3-7 contre l'Argentin Pedro Cachin. Match qui a quand même duré plus de 3 heures. Et petite inquiétude, dans le journal L'Équipe quand même pour Nadal. À 37 ans, il va devoir enchaîner dès ce soir contre le Tchèque Jiří Leica. Quelques doutes sur l'état physique de la star espagnole. On espère quand même le voir sur les courts de Roland-Garros quand même.
On espère briller, évidemment. Fin de carrière assez compliquée pour Rafael Nadal, qui est touché par pas mal de petits pépins physiques.
Ouais, merci beaucoup. Ça commence le 20 mai prochain.
20 mai prochain, Roland-Garros. Voilà, c'est quoi, deux semaines, c'est ça, là, c'est la quinzaine.
Exactement.
Qui démarre du côté de Paris. Merci beaucoup, Clément Harry. On vous retrouve tout au long de cette matinée, notamment dans les journaux de Laurie Leclerc. Mais tout de suite, on va débattre avec Jean-Jacques Bourdin, que vous retrouviez hier lundi entre 9h30 et 10h, avec cette question: faut-il une défense européenne avec l'arme nucléaire française? Eh bien, c'est un souhait, celui d'Emmanuel Macron.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.
Vous êtes sur Sud Radio, merci de nous en parler librement, évidemment. Et nous avons la chance d'avoir avec nous deux connaisseurs, deux consultants, deux spécialistes de toutes les questions de défense. François Chauvency, qui est consultant géopolitique, rédacteur en chef de la revue Défense de l'Union, IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale, et Patrick Martin-Grenier, qui est professeur à Sciences Po, tiens, spécialiste des questions européennes et internationales. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Je me tourne tout de suite vers vous, Patrick Martin-Grenier, parce que vous êtes Jeunier. Martin Jeunier, professeur, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales, Sciences Po. Alors, vous êtes désolé?
Oui. Oui,
désolé par quoi?
Ben, moi, je suis désolé.
J'ai vu vos tweets.
Oui, ben, c'est-à-dire que j'y suis allé une fois. Et vous savez, moi, quand j'étais étudiant à Sciences Po, il y a plus de 40 ans, il y avait des panneaux syndicaux, des panneaux de libre expression, il y en avait pour tout le monde. Tandis que là, on ne parle plus que de la lutte à Gaza, du peuple palestinien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas un jour régler ce problème politiquement. Pas une seule fois, j'ai entendu des étudiants, hélas, en ont-ils été peut-être empêchés de parler des otages israéliens, des otages juifs. Du Hamas. Et ça, j'ai été vraiment très, très attristé parce que ce n'est pas le Sciences Po que j'ai connu. On a l'impression qu'ils sont tenus effectivement par une minorité d'excités. Et donc, ce n'est pas normal. Et lorsque je vois en plus que la direction accepte de faire ce qu'on appelle en anglais un town hall, je suppose que c'est une confrontation, une discussion, en acceptant d'abord de retirer les procédures disciplinaires contre les étudiants qui auraient proféré des propos antisémites d'une part, d'autre part en proposant d'étudier les liens, d'investiguer les liens avec les universités et organisations qui travaillent avec Israël, je suis particulièrement choqué. Et moi, quand je vois aussi que le Hamas soutient ces manifestants, je dis qu'il ne faut pas qu'il y ait cette confrontation, c'est une capitulation. Je suis extrêmement choqué par ce qui se passe et donc il faut redresser la barre. Voilà.
Il faut redresser la barre. Alors je rappelle quand même qu'il s'agit de 150 à 200 étudiants sur 13 000.
Oui.
Que les choses soient claires. Parce qu'évidemment, la loupe médiatique donne à ce blocage une importance considérable.
Oui, tout à fait.
Il faut toujours. Bon. Néanmoins, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Patrick Martin-Jeunier, François Chauvency? Regardez cela de l'extérieur, mais...
Totalement, mais je vais prendre un autre mot, la lâcheté de la société française ou de la direction, finalement, de Sciences Po vis-à-vis, d'activistes. Je crois qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où on n'a pas le courage d'interdire quand ça dépasse les limites. On est toujours en train de tolérer plein de choses. Et là, vous avez un exemple type de lâcheté de la direction, et je trouve ça lamentable en termes d'image, mais aussi de... sens des responsabilités. La sens des responsabilités, quand on a fait, comme vous l'avez souligné, 100-150 activistes sur 13 000 et qu'on leur donne gain de cause, comment comprendre? Moi, c'est un scandale, voilà.
Bien, voilà, la parenthèse Sciences Po est refermée. Maintenant, parlons de défense européenne, parce que le président de la République s'est exprimé, je le cite, la dissuasion nucléaire est au cœur de la stratégie de défense française. Elle est donc un élément incontournable de la défense du continent européen, a dit le président de la République, qui est prêt à ouvrir le débat d'une défense européenne en englobant armes de longue portée, armes antimissiles et armes nucléaire. Alors, que pensez-vous? Est-ce que le président de la République a eu raison de tout mettre dans le même panier, en quelque sorte? Je commence avec vous, Patrick Martin-Jeunier.
Je remercie M. Bourdin, je passe le contrôle du général parce qu'il y a toujours un aspect militaire et politique.
Oui. Moi,
je vois l'aspect politique dans un premier temps. D'abord, le président de la République a ouvert un débat, ça ne veut pas dire que tout est décidé.
Oui.
Je pense qu'on n'arrête pas de nous dire, depuis quelques temps, notamment dans l'entourage du ministre allemand de la Défense, que M. Poutine, la Russie, va envahir l'OTAN très bientôt. On n'arrête pas de nous dire que donc si Donald Trump était réélu président des États-Unis, il lâcherait l'Europe en cours de chemin, au milieu du guet. Donc je dis que moi, aujourd'hui, le président de la République a raison, politiquement, en pleine campagne pour les élections européennes, certes, de lancer un débat sur la portée européenne de la dissuasion française. C'est un débat politique fondamental qui ne plaît pas aux gaullistes, on est bien d'accord, parce que c'est le général de Gaulle.
Mais la dissuasion nucléaire française ne peut pas s'arrêter à nos frontières. Mais, Général Chauvency.
Le président de la République a été très clair depuis plusieurs mois sur la question. Oui. Il l'a bien dit. Dès lors que l'Europe est touchée, la France est concernée. Donc ce qu'il dit finalement n'est pas choquant et j'irai même un peu plus loin. Je dirais que nous changeons de génération. Nous avons une génération auparavant qui a pensé la dissuasion sous l'aspect de ceux qui avaient connu la guerre. Aujourd'hui, cette génération a disparu. Elle n'est plus aux affaires. Nous avons une nouvelle génération qui remet finalement sur la table la stratégie que nous avons. Pourquoi pas? Alors maintenant, sur le débat sur oui ou non partager la dissuasion nucléaire.
Oui.
Bon, il y a quand même deux questions importantes. Est-ce que le contribuable français n'a pas son mot à dire après avoir financé pendant 70 ans au moins la dissuasion nucléaire?
Tout à fait.
Ensuite, deuxième question, c'est l'aspect, je dirais, technique, financier. Et puis, il y a un autre aspect, c'est celui de la prise de décision, qui était le vrai souci. Qui déciderait demain de l'application ou non de l'arme nucléaire, même pour défendre l'Europe? C'est la vraie question, parce qu'on parle de souveraineté. Oui, il y a une question de souveraineté sur ce sujet.
D'appuyer sur le bouton, oui, en quelque sorte.
Tout à fait.
Jean-Jacques Bourdin, que vous retrouvez tout à l'heure à partir de 8h30, avec son invité politique Nathalie Loiseau, députée européenne Horizon, présidente de la sous-commission défense, justement, et porte-parole, je le rappelle, de la campagne de Valérie Ayer pour ces européennes. Allez, 6h moins le quart dans un instant, dans quelques instants. On va se retrouver avec le rappel des titres et on recoutera les vraies voix. Cette fois-ci, on s'intéressera au cas de Jean-Luc Mélenchon, à tout de suite.
Sud Radio Lourdes.
102.2.
Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Je vous remercie énormément au niveau de Sud Radio de tout ce que vous faites pour donner la parole aux sans-voix, parce que sur nos médias nationaux, personne n'en parle.
Sud Radio, parlons vrai. Le petit matin Sud Radio, 5h-6h30, Maxime Troulot.
Et tout de suite, le rappel des titres. Gérard Depardieu qui sera bientôt jugé en octobre 2024 pour des agressions sexuelles sur deux femmes. Il avait déjà été entendu évidemment sur des précédentes affaires d'agressions sexuelles. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, suspend ses financements pour Sciences Po après des mobilisations pro-palestiniennes, même si ces mobilisations se sont calmées et ont touché la Sorbonne pendant quelques heures hier. L'autoroute A13 devrait réouvrir prochainement, à partir peut-être du 11 mai, selon la préfecture de police, mais que dans un sens, en direction de la capitale. Et puis, ce soir, du football, demi-finale aller de la Ligue des Champions, le Bayern Munich reçoit le Real Madrid avant le match de demain entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. 5h46 sur Sud Radio, donc, tout de suite, les vraies voix avec cette question. L'État a-t-il raison de porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon?
Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour.
Les propos de Jean-Luc Mélenchon qui ont traité de nazisme, de nazi à Adolf Eichmann, ça c'est juste une injure publique.
Jean-Luc Mélenchon n'a jamais comparé le président de l'université à un nazi, ce n'est pas vrai.
Mon ministère va se porter plainte pour injure publique devant un agent public.
Je pense que le gouvernement, en voulant porter plainte contre Mélenchon, instrumentalise au moment de la campagne électorale.
Vous lisez la déclaration précise de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a aucune injure publique dans la prise de position.
C'est le choix de Mélenchon. Il aurait pu prendre d'autres références, mais bon.
Et donc cette référence qui fait beaucoup parler, hein. Le ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé dimanche une plainte contre l'ancien candidat insoumis à la présidentielle qui a dressé un parallèle, vous l'avez entendu, entre le président de l'université de Lille et Adolf Eichmann qui est une figure du nazisme.
Oui, alors parlons vrai, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est désormais sans limite? Est-ce qu'on peut tout dire au nom de la liberté d'expression ou doit-il y avoir des limites, comme c'est le cas en France, dites par la loi? Est-ce que ça ne va pas lui permettre de se victimiser en disant, voyez, tout le monde me tombe dessus? Et à cette question, l'État a-t-il raison de porter plainte contre Mélenchon suite à ses propos avec l'allusion à Adolf Eichmann? Vous dites oui à 65%. Vous voulez réagir, Aude attend vos appels au 0826-300-300.
Et cette intervention de Jean-Luc Mélenchon fait suite à je répète les propos qu'il a dit. Moi, je n'ai rien fait, disait Eichmann. Je n'ai fait qu'obéir à la loi telle qu'elle était dans mon pays. C'est suite effectivement à l'injonction finalement au fait de vouloir fermer cette université pour cause de désordre, éventuellement de désordre public. Voilà.
D'abord,
qu'on rappelle.
Une digression dont j'ai conscience. Je trouve très justifié la plainte de la ministre des universités pour injure publique, et en même temps j'ai été très surpris par cette même ministre qui trouve le moyen d'approuver l'accord, de mon point de vue indécent, qui a été conclu à Sciences Po entre la direction et j'allais dire les voyous, disons, le groupuscule semeur de désordre et de violence et instrumentalisant une école qui a été, il y a longtemps, prestigieuse. Deuxième élément, je suis un partisan, je le sais comme vous, mes amis, presque absolu de la liberté d'expression, mais je me demande si il n'est pas temps, devant plus que des outrances de Jean-Luc Mélenchon, d'adopter une attitude de riposte et de réplique judiciaire. Sinon, on pourra lui donner l'impression qu'il a peut-être déjà que tout lui est permis. Deuxième élément, troisième, et je termine, le fait qu'il y ait une plainte contre lui l'a déjà conduit bizarrement à faire une légère marche arrière qui est en fait absurde, puisqu'il affirme qu'il n'y avait pas de comparaison avec le nazisme quand il parlait au sujet du président de l'université, d'Adolf Eichmann. Donc je pense que ça va peut-être... Ils vont le victimiser, il va se victimiser, mais je pense que tout de même la démarche est très opportune.
Jean Dorido.
Oui, alors pour répondre à votre à la question du débat, est-ce que l'on peut tout dire au nom de la liberté d'expression ? Clairement, en France, la réponse c'est non. C'est très très encadré. Il y a des interdictions. Dès qu'il y a incitation à la haine raciale, dès qu'il y a des propos homophobes, et puis là, en l'occurrence, injure publique, c'est interdit, c'est sanctionné par la loi. Vous n'avez pas le droit d'injurier publiquement quelqu'un, et bon, ça va, là ça va être justement devant les tribunaux, et c'est la justice qui va décider, qui va se concerter, savoir est-ce que le fait de, c'est quand même, Jean-Luc Mélenchon devient assez coutumier de référence à la Shoah, de référence à la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même assez toxique, me semble-t-il.
Yael Brun-Pivet,
qui part camper,
en Israël.
Et donc, si vous voulez, tout ça, ça donne une espèce de coloration assez nauséabonde, me semble-t-il, à son discours, et donc ça va être intéressant. Il y a une plainte qui semble légitime, et puis la justice va dire, est-ce que ces propos, ça consiste finalement à traiter le patron de l'université de Lille de nazi, et c'est une injure, c'est interdit, bien sûr.
Michael Sadoun.
Bon, moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon aurait pu tenir un propos intéressant, puisque visiblement, il parlait aussi de ça pour parler de la banalité du mal, d'accord ? Qui est un concept développé par Hannah Arendt
dans son livre.
Et qui explique notamment que le mal est fait non pas par des gens passionnés, pleins de convictions et extrémistes, mais par des gens, des petits hommes gris, des gens ordinaires, sans conviction ni passion. C'est un propos qui peut se tenir et qui est intéressant dans le débat politique, qui s'applique. Bon, peu importe. De là à traiter ses adversaires systématiquement de nazis, il y a une énorme frontière. Je note quand même que Jean-Luc Mélenchon est loin d'être le seul dans le débat public à abuser de cette comparaison et à abuser de la mémoire de la Shoah. Je pense notamment à la Macronie qui mobilise en permanence ce souvenir à tort et à travers. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, dans l'entre-deux-tours de 2007, il a fait deux visites. Oradour-sur-Glane, massacre de 642 personnes par des Waffen-SS, et le mémorial de la Shoah. Les deux discours ont fait référence à Marine Le Pen. Donc, moi, ce n'est pas un sujet sur l'antisémitisme au RN, je n'en sais rien, il y en a probablement encore. Mais simplement, comparer le Rassemblement National au parti nazi, c'est insulter la mémoire de ceux qui sont morts dans cette période, je le crois sincèrement.
Les vraies voix que vous retrouvez tout à l'heure à partir de 17h avec Cécile de Ménibus et Philippe David. 5h52 sur Sud Radio, tout de suite, on va accueillir notre lève-tôt du jour. Et on se rend ce matin dans les Pyrénées-Atlantiques, retrouver Olivier Morin. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous êtes fromager, éleveur de brebis et de porcs gascons. Très heureux de vous avoir ce matin à l'antenne, puisque eh bien, ce matin on parle de ce projet de loi qui va être examiné aujourd'hui à l'Assemblée. Certains, en tout cas parlementaires, souhaitent voir le pastoralisme être reconnu, Olivier, comme activité d'intérêt général majeur. Pour vous, c'est une attente que le pastoralisme va être reconnu par les Français, par l'Assemblée nationale ?
Alors bien sûr, c'est une attente, même si, si aujourd'hui le pastoralisme bénéficie de nombreuses reconnaissances, ça serait l'occasion de l'écrire dans le marbre, dans la loi, puisqu'aujourd'hui le pastoralisme a besoin qu'on lui donne des moyens pour jouer pleinement son rôle dans la souveraineté alimentaire, entre autres.
Alors expliquez-nous, Olivier, exactement la définition. Qu'est-ce que le pastoralisme exactement ?
Alors le pastoralisme, c'est le fait d'élever du bétail sur des surfaces qu'on appelle parcours. Mmh. Ces surfaces, ce sont des surfaces qui sont peu productives, c'est-à-dire sur lesquelles on ne peut finalement rien faire d'autre que de l'élevage. Mais ce sont aussi voilà, c'est des surfaces qui sont des espaces collectifs, qui sont souvent la propriété de l'État et des communes, sur lesquelles il y a d'autres aussi activités. Voilà, mmh. Ce qui en font une particularité et parfois des difficultés en termes de gestion. Ce sont aussi des espaces qui sont des réserves exceptionnelles de biodiversité, puisque la symbiose entre la nature et l'agriculture, voilà, en sont les garants.
Et marche bien, je le rappelle, 18% de l'élevage en France, hein, le pastoralisme, c'est 60 000 exploitations, c'est quand même assez important. Alors, activité d'intérêt général majeur, quels sont les objectifs du gouvernement? On parle notamment peut-être de mieux protéger vos bêtes contre des attaques de loups, d'ours. Est-ce que vous, Olivier, ça vous est arrivé d'avoir été attaqué par un loup, voire par un ours peut-être?
Alors d'abord, aujourd'hui, il y a déjà des mesures qui sont mises en place, même si ce n'est pas complètement satisfaisant et qu'on n'atteint pas pleinement la protection à 100% des animaux d'élevage. Donc il y a bien d'autres choses, au-delà de la prédation aussi, qui sont aujourd'hui des risques pour la pratique du pastoralisme. Personnellement, je n'ai pas subi d'attaque de loups sur mon troupeau, parce qu'on a la chance encore pour certains endroits d'être préservés, même s'il y a encore des attaques, s'il y a des attaques dans des vallées de Mont-Béarn. D'ours, oui, j'en ai subi, mais sans commune mesure par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Ariège. Et j'ai subi un traumatisme, nous avons subi un traumatisme tout aussi important que la prédation, puisqu'en 2018, l'État français, avec le soutien de l'armée et de ses hélicoptères, nous a introduit deux ours venus de Slovénie dans nos montagnes, je le rappelle, en 2018.
Oui, absolument. Est-ce que vous avez combien de bêtes? Quelle est la taille de votre exploitation, Olivier?
Aujourd'hui, mon exploitation, c'est une exploitation, je dirais, moyenne, des vallées du Béarn, c'est un peu entre 200 et 250 brebis. Voilà, sur une exploitation qui fait tout juste 30 hectares, mais qui ne serait pas viable justement sans ce modèle, sans la transhumance, et sans le fait de pouvoir aller justement exploiter l'été ces surfaces pastorales dont on parle et dont l'enjeu aujourd'hui est fort.
Qu'est-ce qu'on pourrait justement faire pour améliorer peut-être vos conditions de travail, Olivier, avec ce projet de loi? Je rappelle que ce ne sont encore que des discussions avec notamment le ministère de l'Agriculture. Comment on pourrait améliorer votre profession aujourd'hui, le pastoralisme, Olivier?
Aujourd'hui, on a un enjeu fort, mais qui n'est pas le seul fait du pastoralisme, c'est le renouvellement des générations. C'est renforcer la formation des bergers, puisqu'on fait de plus en plus appel à des salariés, et puis il va falloir renouveler ces exploitations. Ce sont des métiers spécifiques, dont les savoir-faire se transmettent souvent de pair à pair. On n'apprend pas ça uniquement sur les bancs d'une école, donc ça demande vraiment de faire du terrain. Et après, vous parliez de on parle de modernisation aussi. Oui. C'est vrai que c'est un frein aujourd'hui pour les jeunes, pour la reprise et pour le maintien de cette activité, mais c'est le fait de pouvoir se moderniser dans le respect, je dirais, des normes et des nécessités de respecter la nature et l'environnement. Mais aujourd'hui, voilà, on a besoin justement d'être accompagné, d'être soutenu et de faire en sorte que voilà, que ce pastoralisme finalement qui joue son rôle pleinement dans le maintien et la production de biodiversité, mais qui ne soit pas justement freiné ou qui ne soit pas entravé justement pour pouvoir se maintenir et jouer, comme je l'ai dit au début, son rôle de production et donc dans la souveraineté alimentaire, qui est aujourd'hui un objectif important.
Vous arrivez à vivre de votre métier, Olivier?
C'est compliqué. On en vit parce qu'on a la passion de vivre de ce métier, mais on ne compte pas les heures. Et aujourd'hui, c'est un métier qui, malgré le fait qu'on fasse des produits de qualité, avec une forte valeur ajoutée, il y a encore on est encore tributaire, je dirais, dépendant de certaines choses, notamment, on a subi ces dernières années l'inflation galopante, et même notre modèle agricole n'y coupe pas. Mais on compte justement sur ce projet de loi, justement pour nous entendre et nous donner les moyens, le bon levier pour faire en sorte que le pastoralisme joue son rôle demain dans le renouvellement des générations et qui continue à nourrir les Français et à entretenir ces espaces magnifiques.
Eh bien, on va suivre ça, évidemment, avec vous. Merci beaucoup, Olivier Morin, d'avoir été notre invité ce matin. Et bonne journée à vous. Bon courage.
Merci, merci.
Et à bientôt, 5h58 sur Sud Radio. Dans un instant, on va retrouver Rémi André qui s'installe en studio pour nous conter la météo du jour. Et puis, évidemment, on va retrouver Laurie Leclerc pour le journal. À tout de suite.
Dans un instant, le Petit Matin Sud Radio avec Maxime Troulot est de retour.
Tout savoir sur les élections européennes avec le gouvernement. Thomas, bonjour. Vous avez interrogé un spécialiste de l'Union européenne. Alors pourquoi on vote exactement en juin prochain ?
Eh bien pour élire les 81 représentants français qui vont siéger pendant les 5 prochaines années au Parlement européen. C'est une élection à un tour et chaque liste qui obtient plus de 5% des suffrages se voit attribuer un nombre de sièges proportionnel à son score.
Et pourquoi c'est une élection importante ?
Parce que les députés européens travaillent à améliorer notre quotidien à travers des projets cofinancés ou en votant des lois comme celle sur la réduction des produits issus de filières qui contribuent à la déforestation.
Très bien. Et on vote quand alors ?
Le 9 juin, ainsi que le 8 juin dans certains bureaux de vote des Outre-mer ou des consulats de la zone atlantique. Pour plus d'infos, rendez-vous sur elections.intérieur.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Sud Radio Aurillac.
101.
Sud Radio. L'horoscope Sud Radio.
Bonjour Bénédicte.
Bonjour à tous, nous sommes le mardi 30 avril.
Bélier,
entreprenez, agissez, engagez-vous sans avoir la crainte d'un résultat mitigé. Le hasard fait bien les choses, accrochez-vous à vos idées.
Taureau, soyez ouvert au plaisir, au bonheur et au partage. Ayez du baume au cœur pour organiser des activités distrayantes ou de chaleureux repas.
Gémeaux,